France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Si je gagne du boulot chez moi, je reste. Si je gagne pas, je prends la route encore.
Je vais aller en Europe.
N'y va pas.
Ok, on y va. Loyer cher, je vais chez les Blancs.
N'y va pas.
Je suis étonné de l'Union Européenne d'avoir ces données et de financer des chanteurs et de ne pas financer l'école guinéenne.
C'est une véritable entreprise de communication d'influence que vous
exactement,
faites.
Exactement. Vous avez trouvé le mot. C'est une entreprise de communication, mais pas n'importe laquelle.
54 ONG accusent les gouvernements de l'Union européenne de complicité dans la tragédie des migrants qui meurent en mer Méditerranée. En 2 ans, rappelle-t-elle, plus de 5300 femmes, hommes et enfants ont péri. Il faut sauver ces personnes, demandent les associations, et veiller à ce qu'elles puissent arriver en toute sécurité et sans retard en Europe. Or, ce que souhaite l'Union européenne, c'est maîtriser les flux migratoires et contrôler les frontières. D'où cet accord, signé l'an dernier entre l'Italie et la Libye, confiant aux gardes-côtes libyens la charge du sauvetage en mer. Et les migrants bloqués en Libye, en Algérie, au Maroc ou au Niger se voient proposer les services de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, qui assure leur rapatriement dans le cadre de son programme d'aide au retour volontaire. En Guinée-Conakry, l'Europe fait encore rêver. En 2018, les demandes d'asile de Guinéens ont augmenté de 61%. Et en France, c'est la première nationalité chez les mineurs étrangers non accompagnés. Dans ce pays, l'OIM a donc déployé des programmes de sensibilisation sur les dangers du voyage. Grâce aux financements européens, elle mobilise des acteurs de la culture qui adressent ce message aux jeunes Guinéens. Ne pars pas, ton avenir est ici. L'OIM en Guinée, contrôle des frontières et des âmes. Reportage signé Raphaël Kraft. Dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction, nous recevons la sociologue Pascaline Chapard. Bonjour. Post-doctorante à l'URMIS, l'unité de recherche migration et société à l'université de Paris Diderot. Vous allez nous expliquer plus précisément le positionnement et le mode de fonctionnement de l'Organisation internationale pour les migrations, une fois que nous aurons écouté le reportage de Raphaël Kraft. Raphaël, vous vous êtes rendu en Guinée-Conakry, pays d'où beaucoup de jeunes partent dans l'espoir d'un avenir meilleur en Europe. Qu'est-ce qui les pousse à tenter ce voyage ?
Alors, c'est un pays d'émigration, la Guinée, qui historiquement n'avait pas l'Europe justement pour trajectoire migratoire. Une étude approfondie demeure à écrire pour tenter de comprendre ce phénomène nouveau. Pour l'heure, quelques éléments permettent d'expliquer la propension de la jeunesse guinéenne à vouloir émigrer. Tout d'abord, la Guinée a vu ses indicateurs socio-économiques s'aggraver ces 10 dernières années du fait d'une succession de crises politiques ou sanitaires, avec notamment l'épidémie d'Ebola qui a frappé le pays en 2014. Le taux d'occupation de la population, pour ne citer que cette donnée, est passé de 74% en 2007 à 57% en 2012. L'indice de développement humain y est un des plus faibles au monde, 182e position sur 187. Un pays pourtant riche en ressources minières, avec beaucoup de potentiel dans les domaines de l'agriculture ou de l'énergie hydraulique, contraint par de gros problèmes structurels et une corruption endémique. Un pays où la richesse est répartie de façon très inégalitaire également. À cela s'ajoutent des tensions ethniques et un lourd passé historique, la dictature de Sékou Touré, que la Guinée n'a toujours pas soldé et qui a entraîné le départ de 2 millions de ses habitants de 1958 à 1984. Dans ce contexte, la jeunesse guinéenne, qui ne bénéficie pas d'un système éducatif qui lui offre des débouchés professionnels, choisit de partir. Des départs pour un avenir meilleur, mais également, et pour un nombre non négligeable de jeunes Guinéens, mineurs notamment, la fuite d'un environnement familial sinon violent ou maltraitant, au moins défaillant. C'est enfin un pays à forte tradition migratoire pour certaines de ses communautés ou ethnies seulement, Peul notamment, où la réussite est liée à la migration. Les données cartographiques établies par l'Organisation internationale des migrations semblent corroborer cette idée selon laquelle on part pour des raisons économiques, mais dans un environnement culturel qui l'y incite.
Nous allons tout de suite dans la région de Bofa, en Guinée-Maritime, où il y a beaucoup de candidats au départ.
Le groupe de danse traditionnelle Africa Walifan est originaire du village de Koukoudé, en Guinée. 3000 habitants environ, petit port de pêche situé dans la région de Bofa, à 200 km au nord-ouest de la capitale, Conakry. Comme dans la plupart des villes et villages de Guinée, Il n'y a pas d'électricité ici, ni d'eau courante, y compris dans l'unique centre de santé dirigé par un infirmier. Pas d'assainissement non plus. Afrika Walifan est composée de danseuses et chanteuses adolescentes. À l'école qu'elle fréquente, ils sont plus d'une centaine d'élèves par classe. Aïcha, l'une d'elles, a 13 ans. Pourquoi danse-t-elle ?
Parce qu'elle aime la danse, elle a son avenir dedans.
Comment ça, son avenir ?
Ami, c'est mon avenir. La danse peut lui envoyer partout, tu vois, et puis d'aider sa maman et son papa aussi.
Ah, donc si je comprends bien, tu danses pour pouvoir voyager et être en capacité de quitter la Guinée.
Oui.
Le surlendemain, à l'aéroport de Conakry, arrivée d'un vol affrété par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, en provenance de Tripoli, en Libye, avec à son bord des migrants guinéens et gambiens dits retournés volontaires. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Qui êtes-vous ?
Akram Aboukaraki, je suis chargé d'opération OIM Guinée.
Est-ce qu'il est possible d'avoir quelques informations sur ce vol qui arrive ?
On a un vol de 160 migrants de Gambie et de Guinée. 60 qui arrêtent en Guinée et 100 qui continuent à Gambie ce soir. On va accueillir les migrants comme d'habitude. J'espère que ça va bien passer.
Quand vous dites on va les accueillir comme d'habitude, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire on les prépare des kits d'assistance première, on les donne d'argent de poche et d'assistance psychosociale. Et on enregistre dans le database de OIM et pour suivre les activités de réintégration après l'arrivée.
Alors, donc 160 migrants originaires de Gambie et de Guinée, 60 pour la Guinée, ils arrivent de Libye, n'est-ce pas ?
De la Libye, oui.
Comment ça s'est passé en Libye, leur identification et surtout les convaincre de revenir en Guinée ?
Normalement, c'est OIM Guinée et les ambassades et les consulats de pays différents, de chaque pays, elle a son consulat et l'ambassade. Alors, avec la collaboration avec OIM, on identifie les migrants dans les centres de détention ou les centres avec le retour volontaire.
Je vois beaucoup de volontaires qui sont là et ils portent tous des t-shirts « Rentrer en Guinée, je suis utile à mon pays ». Avec tout un tas de slogans, qu'est-ce que c'est ?
C'est les campagnes de sensibilisation des migrants. Il y a des ex-migrants ici qui essayent d'aider les migrants qui arrivent en Guinée maintenant pour lui donner un exemple, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et essayer de les aider en général.
Alors cette campagne, j'imagine, elle n'est pas seulement tournée vers les gens qui rentrent là, mais surtout vers les gens qui voudraient partir.
Exactement, oui, oui. Ça touche tout, les gens qui essayent de partir, les gens qu'ils ont les idées de vouloir de partir de la Guinée et les gens qui rentrent, bien sûr.
Entre nous, vous comprenez que les gens veulent partir d'ici ?
Je viens d'arriver hier, je peux pas... Non mais... honnêtement, j'ai pas la réponse à cette question.
Merci beaucoup. Je vais d'abord vous demander de vous présenter.
Oui, je suis Laz Mohamed Diallo. Oui, migrant retourné de la Libye. Je travaille avec OIM sur le projet appelé Migrant as Messengers, Migrant Messager. Donc, je suis le président des migrants retournés aussi. On a créé une association pour passer nos messages, pour pouvoir essayer de les expliquer aux jeunes migrants qui sont là, pour les sensibiliser et les potentiels migrants aussi.
les sensibiliser à quoi ?
À l'abandon de la migration irrégulière, parce que nous disons les migrants potentiels, c'est pourquoi ils partent, c'est parce qu'ils ne savent pas les dangers de la migration, c'est pourquoi. Mais les migrants de retour, eux, en attendant que l'OIM les assiste, plus souvent les jeunes sont démotivés, parce qu'ils disent que voilà, ils sont revenus dans leur pays, donc l'assistance a beaucoup duré, donc on essaie de les encourager à rester et pouvoir entreprendre quelque chose en attendant que la réintégration commence, parce que ça va durer. Donc au début, on avait constaté qu'il y a eu des jeunes qui étaient venus, donc le fait que la réintégration a duré un peu, les jeunes décident tout simplement de sortir. Donc on s'approche aux migrants retournés pour essayer de les causer un peu, parce que si on est avec eux, en les expliquant vraiment, ensemble on peut réussir de venir auprès de l'association, nous prenons des initiatives ensemble, peut-être ça peut marcher.
Parce que beaucoup des personnes qui reviennent de Libye ont envie de repartir, mais peut-être cette fois par le Maroc.
Oui, plus souvent. D'autres disent que comme la Libye, ça n'a pas marché, donc il faudra qu'ils repartent au Maroc. Je me rappelle même le vendredi passé, là, on était à la maison du jeune de Ratoma. Il y avait des jeunes qui voulaient coûte au coûte partir au Maroc. Lorsque j'ai projeté mes photos, je leur ai expliqué, il y a une jeune fille directement qui s'est levée. Elle dit, moi personnellement, je ne savais pas que le Maroc c'était comme ça. Mais à partir de là maintenant, même si je vais partir, mais ce n'est pas au Maroc. Je vais tenter au moins de trouver un visa pour aller vers l'Europe pour continuer mes études. Nous savons réellement, mais en s'approchant à ces jeunes-là, en les expliquant un peu les histoires, d'autres quand même se retirent.
Cette association Migrants as Messengers, les migrants comme messagers, c'est une association qui est encouragée, j'imagine, par l'OIM, l'Organisation Internationale des Migrations, est-ce qui est financée aussi?
Ok, Migrants as Messengers, d'abord, ce n'est pas ça l'association, ça c'est un projet.
Ok, d'accord.
Ok, c'est un projet financé par le gouvernement des Pays-Bas, piloté par OIM. Mais l'association est appelée Organisation Guinéenne pour la lutte contre la migration irrégulière, composée essentiellement de migrants, pour l'objectif de contribuer à la lutte contre la migration irrégulière. Je vais m'adresser à eux. Hein.
Okay.
Ok, je vous en prie. Bonsoir tout le monde. Assalamu alaikum. Okay. Comme vous me voyez, j'étais comme vous. J'étais en Libye. Ici, on vous dit, il n'y a pas tabou. Il n'y a pas calabousse. Il n'y a pas... Sakara femme, il n'y en a pas. Manderia, mia, mia, pour le pays. Voilà, je vous dis, lui, il me connaît d'ailleurs, on était ensemble. Vous le connaissez, non? Voilà, on était ensemble en Libye. Donc je vous dis, vraiment, vous êtes chez vous. Soyez tranquille et libre, vous êtes chez vous. Vous n'aurez plus de complications maintenant. Nous sommes ensemble. Vraiment, merci.
Baldé Ibrahim Assouari. Baldé Mohamed Ali.
S'il vous plaît, dégagez là-bas. S'il vous plaît.
Yallo Mamadou Oy. Yallo Seiko Mohamed. Yallo Mamadou Saïdou.
On va s'asseoir pour qu'on s'organise, pour qu'on sorte rapidement d'ici. S'il vous plaît. On va
s'asseoir. Comment vous vous appelez?
Hassan Ba.
Quand est-ce que vous avez quitté la Guinée?
Vous dites?
Quand avez-vous quitté la Guinée?
C'était à cause de la souffrance que je suis quitté la Guinée. Je suis allé en Algérie pour pouvoir voir si je veux traverser pour aller en Libye, pour partir en Europe, pour plus d'améliorer ce que je cherche et ce que je veux. Mais ça a été le contraire.
Quel âge aviez-vous lorsque vous êtes parti?
J'avais l'âge de 19 ans.
D'accord. Et aujourd'hui, vous avez quel âge?
Aujourd'hui, j'en ai 21 ans.
D'accord. Et quand est-ce que vous vous êtes dit, je vais rentrer volontairement en Guinée? Pourquoi vous avez décidé de rentrer volontairement en Guinée?
Non, je n'ai pas décidé de rentrer volontairement en Guinée.
Ah bon?
Oui.
C'est-à-dire?
C'est parce qu'on m'a kidnappé à la maison. On m'a envoyé à la prison. J'ai essayé de fuir, je n'ai pas pu. C'est en ce temps que je suis enregistré, on m'a rapatrié chez moi.
Ah, mais parce que vous ne vouliez pas rentrer?
Je ne voulais pas.
Parce que l'OIM dit que ce ne sont que des départs volontaires.
Et pourtant, les Libyens ne font pas ça. Ce n'est pas volontaire que les Libyens font. Et ils vous forcent.
Ils vous forcent à rentrer dans l'avion de l'OIM ?
Oui, ils vous forcent à enregistrer. Parce qu'on vous kidnappe. On vous met dans des prisons, au nom des déportements. Dans des prisons, on vous enferme là-bas. On vous dit de vous enregistrer obligatoire. Tu vas t'enregistrer obligatoire pour rentrer chez toi.
D'accord. Et maintenant, vous avez envie de repartir ?
Non, pour le moment, j'ai pas envie de sortir pour le moment.
Vous avez besoin de vous reposer, j'imagine.
Oui, je voudrais me reposer un peu.
Et après ?
Si je gagne du boulot chez moi, je reste. Si je gagne pas, je prends la route encore.
Merci beaucoup de votre témoignage.
Merci.
Nzéré Corée, deuxième ville de Guinée située à 2 jours de route et de piste de la capitale, Conakry. C'est là que vit Maurice Kohiba, retourné dit volontaire de Libye par l'Organisation internationale pour les migrations, après avoir tenté par 2 fois le passage en Europe par la mer, afin d'y poursuivre ses études, faute de ses visas qu'il n'a pas réussi à obtenir dans différents consulats, dont celui de la France.
Et quand nous sommes descendus à l'aéroport de Conakry, nous avons été reçus donc par les autorités guinéennes qui nous ont beaucoup plus soulagés, souhaité vraiment les bienvenus au pays. Ensuite, nous encourager de ne pas baisser beaucoup plus les bras. Et chacun de nous a reçu une somme aussi symbolique de 50 euros qui fait à peu près 520 000 francs guinéens. Juste pour...
C'est l'OIM qui vous a donné cette somme.
C'est l'OIM qui nous a offert cette somme. Donc juste pour pouvoir regagner la famille.
Et c'est tout ? On vous a donné un téléphone ? Comment ça s'est passé ?
Moi, je n'ai pas reçu de téléphone. Mais je n'ai pas reçu de téléphone.
Et là, vous sortez de l'aéroport ? Vous avez un suivi psychologique ? Il y a des gens qui viennent vous voir ?
Oui. Arrivé à l'aéroport, il y avait quelques personnels de l'OIM qui nous soulageaient psychologiquement pour nous encourager, et que nous serons suivis de près, que nous sommes revenus. L'OIM va prendre en charge nos difficultés, c'est-à-dire financières. Moi, je suis allé à la maison parce que je suis venu très, très malade. Et arrivé donc à la maison, ça n'allait pas du tout. Le lendemain, je suis vraiment avec la maladie. Il a fallu donc m'hospitaliser à l'hôpital.
Quelle maladie ?
C'était la fièvre typhoïde.
C'est l'OIM qui a pris en charge votre hospitalisation ?
Bon, cette hospitalisation, ce n'était pas l'OIM qui a pris en charge parce qu'il se disait, c'est avec les 500 000... que c'est dans ça que tu allais vraiment essayer de pouvoir...
Avec les 50 euros, vous voulez dire.
Avec les 50 euros, que c'est dans ça que tu allais vraiment te prendre en charge dans ça, jusqu'à regagner la famille.
Et est-ce que vous avez contacté l'OIM pour recevoir de l'aide ou pas ?
Oui, j'ai contacté pour dire que je suis malade, mais en vain.
Donc, depuis un an que vous êtes rentré en Guinée, est-ce que vous avez été suivi par l'OIM ? Est-ce qu'on vous a proposé des opportunités professionnelles, des formations, parce qu'ils communiquent beaucoup là-dessus.
Donc, depuis le retour jusqu'à maintenant, je me suis retourné dans l'activité que je faisais, c'est-à-dire celui de l'enseignement, dans une école secondaire d'ici. Et c'est dans l'enseignement là que je me débrouille présentement. Au retour, je leur avais donc dit que comme cette situation n'a pas aussi marché, je voudrais une assistance aussi financière également, ou juste même pas financière, mais faire inscrire dans une école anglaise et en informatique pour pouvoir vraiment continuer à me perfectionner en anglais tout comme en informatique. Mais jusque-là, rien n'est fait encore et je suis toujours à l'attente de ma demande.
Comment ça s'est passé le retour dans votre famille ?
Le retour dans la famille, la maman était très contente parce que depuis la Libye, elle recevait nos appels comme quand nous sommes en train d'être torturés. Et avec ce que l'humanité, presque l'humanité a entendu avec les images. Elle s'inquiétait beaucoup plus et elle était très contente de faire de revenir au pays parce que je suis l'unique garçon de cette maman. Donc elle était très contente de me recevoir, surtout avec des encouragements. Mais avec l'entourage, donc c'est l'entourage qui n'était pas beaucoup plus confortable parce qu'il y avait beaucoup plus de critiques, ainsi de suite. Mais on s'en remet et on se dit que certainement c'est Dieu qui n'a pas voulu que ce voyage puisse être réalisé.
Qu'est-ce que vous voulez dire par des critiques?
Oui, je veux dire que à côté, les gens se disaient, il était là, il s'est débrouillé un peu, il a laissé ça voyager et il est parti, il n'a pas pu. Donc, c'est-à-dire en Afrique, quand tu essaies de tenter un voyage, surtout que certains ont réussi, ils se disent certainement que toi, tu n'as pas pu, tu n'es pas vraiment un garçon. Et avec tout ça, ça peut vraiment démoraliser la personne, l'objet de mépris dans la société. Des fois même, certains se moquent, d'autres même parfois ont peur de toi. Et parce que pour dire vrai, j'en ai reçu certains, deux ou trois comme ça, pour dire que vraiment, depuis votre retour, j'avais excessivement peur de vous, parce que les images que je voyais depuis la Libye, à dire que vous étiez là-bas, vraiment ça fait peur. Donc tout ça là, il fallait vraiment le parler pour dire que oui, ça c'était. Mais l'essentiel est que l'homme est là et on remercie vraiment le bon Dieu.
Vanga katanga sangue fin, bemuna alo pari dollar na États-Unis. Vanga katanga sangue fin, nu famanga timane umbe. Mfa sara manemba be, konfa uma tole nyamane. Wada wa mameti nu famanga timane umbe. Mfa sara manemba be.
Patou Diallo Ndiaye, représentante de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations en Guinée. Quelles sont les causes profondes de l'immigration sur lesquelles l'OIM travaille aujourd'hui, depuis notamment le sommet euro-africain de La Valette qui s'est tenu les 11 et 12 novembre 2015, qui a été suivi par plein de rencontres, la décision d'un fonds fiduciaire d'urgence d'1,8 milliard d'euros qui vient de se traduire par un fonds de 65 millions d'euros de l'Union européenne ici en Guinée et qui sera mis en œuvre par différents acteurs dont l'OIM. D'abord, quelles sont ces causes profondes?
Nous le savons tous, c'est d'abord le chômage et c'est d'abord la précarité des ressources et c'est aussi le niveau d'éducation un peu bas. Qui fait que au fin fond de la Guinée, souvent, le plus souvent, d'où on a aussi un taux de départ assez élevé, on a ce niveau d'analphabétisme un peu élevé, qui font que aussi souvent les gens ignorent un peu les effets néfastes de cette migration régulière qu'ils ont choisie. On a aussi ces causes qui sont structurelles et qui sont aussi culturelles. Et on sait que dans certaines parties de la Guinée, telles que la zone de Mamou, nous avons des régions qui sont des régions de départ. Ça, c'est depuis des décennies, donc c'est depuis des siècles. Et aujourd'hui, la Guinée est devenue le troisième pays en Afrique subsaharienne avec le taux de départ et de retour le plus important.
Et pour quelle raison?
Alors, c'est ça qui nous pousse aujourd'hui à savoir, est-ce qu'il y a un peu un lien avec cette période post-Ebola qui était très dure pour la Guinée. D'aucuns me diraient, mais le Liberia en a eu, la Sierra Leone en a eu. Mais il faut savoir que la Guinée a une frontière avec un des pays de transit en Afrique subsaharienne qui est le plus fréquenté, qui est le Mali. Mais il faut savoir que aujourd'hui, cette route migratoire, elle est plus que semée d'embûches parce que ce n'est plus comme avant.
Alors comment faites-vous justement pour déjà identifier les candidats potentiels au départ et comment faites-vous pour leur dire de ne pas partir, pour leur faire comprendre qu'il ne faut pas partir?
On a, nous, au niveau de chaque région, on a ce qu'on appelle des sous-bureaux qui sont des sous-bureaux de l'OIM au fin fond de la Guinée pour pouvoir travailler en parfaite harmonie avec les communautés d'origine et enregistrer les jeunes qui sont suite à un profilage qui montre un profil de potentiel candidat, parce que je peux vous dire que presque 80% de ces jeunes le plus souvent sont des potentiels candidats. Et à travers nous, ce profilage, l'analyse de ce profilage, on peut déjà leur faire des propositions. On a ce qu'on appelle le Deep Placement Tracking Matrix. Et ce département nous permet aujourd'hui d'avoir des points de monitoring des flux pour avoir la tendance au fil du temps, pour avoir une idée des zones les plus touchées à telle période et pour être sûr que nous maîtrisons bien les départs et les entrées et au niveau des postes tels que le poste de Kouré-Malé, qui est un poste frontalier avec le Mali.
Alors justement, votre action, elle se situe aussi aux frontières, c'est-à-dire que vous mettez en œuvre des programmes qui permettent, je ne sais pas, de former les gardes frontières ou...
Mais oui, évidemment, on a un large programme de formation, de renforcement des capacités des acteurs aux frontières et aussi au niveau des acteurs, des agents aux frontières, des agents de police. Et on aura bientôt un programme qui formera aussi la magistrature, tout ce qui est par rapport à la traite.
Mais revenons à cette question des causes culturelles. J'ai constaté que vous investissiez également dans le monde des arts, de la culture, pour changer cette idée selon laquelle voyager c'est bien et vous invitez les gens à avec ce slogan ne pars pas. Comment ça s'est passé?
Ben, ne pars pas, c'est que c'est juste surtout en Guinée, c'est pour leur dire qu'il y a à faire ici. Et si on est motivé, on a des opportunités ici. Et c'est à travers l'art, à travers la culture, on a beaucoup. Et permettez-moi de vous dire, à travers cet art, moi je peux vous dire que la sensibilisation, elle a vraiment porté.
C'est très difficile de faire vivre des gens sur un truc comme l'immigration.
Immigration Men.
Mais c'est pour passer vraiment des messages.
Spectacle de l'humoriste guinéen So Pedro, sponsorisé par l'OIM au Centre culturel franco-guinéen.
Je vais tout à l'heure faire un truc avec vous qui va certainement vous faire plaisir. Je vais te donner 16 raisons pour partir en Europe. Vous allez me donner 16 fois la réponse « n'y va pas ». D'accord ? Mais pour ça, parce qu'on a promis que ça va être un message fort. Je veux que tout le monde se lève. Que tout le monde se lève. Mets un peu de lumière, s'il te plaît, dans la salle. Un tout petit peu, parce que quand tu mets trop, ils s'en vont. Que tout le monde se lève, s'il vous plaît. On va faire un test, d'accord? Je veux aller en Europe! Voilà, il y en a qui suivent. Il y a d'autres qui disent, je dois dire quoi? Je veux aller en Europe. Il y a des voix assez rock, tu vois. On essaie une troisième fois, mais là je veux entendre la vraie voix. Je veux aller en Europe! Là c'est les gens. Là tout le monde a parlé, tu vois. Ok, on y va. Loyer cher, je vais chez les Blancs.
N'y va pas.
Là-bas au moins on nous met dans les camps.
N'y va pas.
Je vais aller, c'est à Rio, mon enfant.
N'y va pas.
Y a pas d'eau, y a pas de courant.
N'y va pas.
Les prix au marché sont alarmants.
N'y va pas.
Embouteillage, ça décourage. Ethnocentrisme, oi 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 oi. C'est pour ça que j'irai. Politiciens vous mentent tous les jours. Enseignants, c'est les gens qui saignent. Ils donnent pas cours, c'est eux qui courent. Toutes les écoles publiques sont fermées. Nos enfants ne vont plus à l'école. C'est eux qui sont les manifestants. Policiers, militaires, pourquoi? Plus de 100 morts, plus jamais ça. Faux.
Il faut leur dire pourquoi il ne faut pas partir. Il faut donner des exemples. Il faut leur dire qu'est-ce qui existe.
Fatou Diallo Ndiaye, représentante de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations en Guinée.
Tout ça, c'est un package et on a eu à travers aussi l'art des communications au niveau local, c'est-à-dire dans la langue vraiment utilisée dans la communauté. On a pu quand même stabiliser certaines zones, je peux vous dire, et c'est pas à travers un consultant ou bien l'OIM qui se met là à parler, mais c'est à travers les communicateurs traditionnels,
les conteurs.
Et puis les chanteurs qui sont bien, le slam, ceux qui font du slam et tout. Et ça marche.
Et vous les financez, ces chanteurs, ces conteurs? Comment ça se passe?
Voilà, souvent c'est un engagement, souvent aussi, et ça nous fait très plaisir quand on voit qu'ils sont engagés personnellement. Et souvent on finance, parce que souvent c'est des jeunes.
Et donc c'est une véritable entreprise de communication d'influence que vous faites.
Exactement, exactement. Vous avez trouvé le mot. C'est une entreprise de communication, mais pas n'importe laquelle. Parce que le sujet, en fait, la cible pour cette communication, c'est une cible très, très sensible et très compliquée. Et c'est surtout un jeune qui est en âge de devenir quelque chose. Il recherche quelque chose et son environnement ne lui offre pas ça. Et donc, si on n'occupe pas cet environnement d'office, il va vers des activités illicites.
Alors, un des points phares de cette année dans la communication d'influence, c'est le fameux clip de Deck G-Force 3, qui est un groupe de rap, de slam très connu, sinon le plus connu en Guinée. Le tournage a été fait au Sénégal, l'OIM a participé à hauteur de $15,000, je crois. Et donc, inciter les chanteurs populaires, les groupes populaires, notamment auprès des jeunes, à chanter Ne pars pas, ça fait partie aussi de vos objectifs?
Oui, ça fait partie de nos objectifs. Et ce projet, il n'a pas été pensé seulement par Digichi, mais il a été vraiment fait de façon consensuelle avec l'OIM et l'Union européenne. Alors, c'est pas l'OIM qui a financé le projet, c'est l'Union européenne. Et j'aime toujours faire cette clarification parce que nous, on est juste là pour appuyer et pour mettre en œuvre. Hein, de façon correcte, mais les fonds nous viennent de...
Surtout pour apporter votre expertise.
Exactement, l'expertise qu'on a et le mettre à profit. Et je pense que ça aussi, c'est très important de le mentionner. Alors, le morceau Falé, il a été composé, mais il y a même dans le morceau Falé des mots que vous trouverez qui viennent de moi, même. Des mots que vous trouverez qui viennent de Luca ou bien de Mohamed.
Luca, votre chargé de communication.
C'est-à-dire que ça a été un genre de brainstorming. Et on s'est dit quoi? On s'est dit que, de un, ils sont connus, ils sont écoutés. C'était un choix vraiment bien réfléchi. Le morceau Falé, qui est dans l'album Dynastie, qui leur appartient, mais le morceau Falé appartient à l'Union européenne et à l'OIM.
Est-ce que depuis la sortie de ce clip, Falé, est-ce que vous avez des jeunes groupes qui viennent vous voir et qui vous proposent également d'écrire des chansons dans la même veine?
Mais oui, on en a beaucoup. D'ailleurs, demain, vous allez voir que ce sera la journée internationale des migrants, mais il n'y aura pas que de Force 3. Il y aura un jeune qui est très talentueux et qui est en train de monter aussi, qui s'appelle Soulbang. Et il y aura d'autres jeunes. Il y a le cirque aussi, on passe à travers le cirque. Il y a le cirque qu'on appelle Taxi, et qui interprète beaucoup de prestations liées à la migration. On est aussi dans la bande dessinée, je ne sais pas si vous le savez ou pas. Ah oui, on est dans la bande dessinée, et ça aussi, ça porte vraiment ses fruits, parce que aujourd'hui, on a des images un peu choquantes dans les bandes dessinées, et on a un Guinéen qui s'appelle Oscar, qui est très 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 bien dans ce domaine, et avec qui on travaille aussi.
En 2007, Tikenja Fakoli chantait « Ouvrez les frontières ». En 2018, Deck G-Force 3 chante « Il ne faut pas partir ».
On dit « Il ne faut pas partir » parce qu'on pense que ceux qui partent...
Oussem Baye,
ils partent avec...
membre du groupe guinéen Deck G-Force 3.
La ferme conviction qu'ils partent pour réussir, pour trouver des sous, pour pouvoir venir prendre soin de leur famille. Ce qu'on dit...
Moi, tous ceux que je rencontre me disent qu'ils partent pour faire des études, surtout.
Oui, oui. Nous, ce qu'on dit, c'est pas de partir. Ce qu'on dit, c'est de pas traverser le désert, c'est de pas se jeter à la mer. On est très d'accord sur le fait de partir pour étudier, de partir dans un cadre organisé, de partir avec... si c'est pas pour être sans papier.
Tikenja Fakoli a dressé un message politique avec « Ouvrez les frontières » en 2007. Et vous, on a l'impression que vous adressez un message moraliste.
Oui, enfin, moi j'étais très d'accord avec le message de Tikenja. dans la mesure où, par exemple, nous, on a été le premier festival sur lequel on devait être en 2004, après la sortie de notre album, c'était en Seychelles. Donc, on a été à l'ambassade, on nous a refusé le visa. Ensuite, on devait aller au Canada pour le festival Juste pour rire, on nous a refusé le visa. Pourtant, on partait pour travailler. Et donc, quand Tikenja a dit ouvrir les frontières, je comprends le message. Et parce que cantonner les Africains dans ce cycle-là n'aide pas non plus. N'aide pas dans la mesure où, même si on reste ici et qu'on n'a pas de débouché à l'international, le plus gros cachet qu'on prend, c'est à l'international. Si on ne peut pas aller chercher cette manne, je pense que c'est ça qui fait que les jeunes se retrouvent dans cette précarité et qui fait que, justement, à un moment donné, si ça n'a pas fonctionné pour moi, l'alternative, c'est partir. Donc, oui. Et nous, comme je disais, on pense autrement. C'est pas mauvais de partir, comme je disais tantôt, mais nous, on pense autrement. On croit fermement, encore une fois, à la jeunesse africaine. On pense que c'est possible de réussir ici.
Le morceau qui vient s'appelle Dilly Love. C'est tout l'amour qu'on a pour ce pays. Comme pour dire qu'il est possible de réussir ici. La Guinée est un paradis.
À l'automne 2015, s'est tenu le sommet euro-africain de La Valette pour lutter contre les causes profondes, et là j'ouvre les guillemets, de la migration irrégulière, avec une première enveloppe d'1,8 milliard d'euros qui a été largement augmentée depuis, qui s'est traduite aujourd'hui par un projet qui s'appelle Integra, 65 millions d'euros ici en Guinée, avec cet objectif qui n'est pas écrit sur le papier, mais de toujours repousser la frontière, de l'externaliser. Quel est le point de vue du Guinéen, de l'intellectuel guinéen que vous êtes, et de l'intellectuel africain que vous êtes? Alors, professeur Bano Bari, anthropologue.
Que l'Europe mette son argent pour se protéger parce qu'elle ne veut plus de migrants, je peux comprendre. Qu'elle mette des lois pour durcir le processus pour accéder au territoire européen, je pourrais dire, du point de vue du contribuable européen, c'est légitime. En tout cas, c'est défendable. Sauf que si l'on veut limiter la migration, à mon avis, on utilise énormément d'argent dans la périphérie de ce qui pourrait limiter la migration et très peu dans l'essence. Regardez la constitution de la migration guinéenne. Pour l'essentiel, les migrants guinéens, à 85%, les données, en tout cas telles que je les possède, indiquent qu'ils viennent du système éducatif. Diplômés ou déscolarisés, ou des enfants déscolarisés, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné l'école. Est-ce que l'école guinéenne favorise la migration clandestine? Je pense qu'on devrait se poser cette question lorsqu'on a 85%. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'école guinéenne qui pourrait amener ceux qui ont des diplômes ou qui vont à l'école à vouloir tenter? Parce que, après tout, ce ne sont pas les moins informés. Je pense qu'on se trompe de stratégie. D'autant plus que je ne suis pas sûr qu'il y a eu encore des études approfondies, pas simplement quelques questions posé rapidement au détour d'une petite rencontre qui aurait permis de savoir sur quoi il faut agir. Parce que l'argent qui est envoyé est quand même beaucoup d'argent. Pour moi, une école de qualité qui donne des chances véritables d'insertion, de création d'emplois, et non pas d'offrir de la main d'œuvre.
Vous parlez des 15 000 licenciés en droit qui sont produits chaque année en Guinée.
Oui. Cela permettrait davantage de limiter la migration. Je suis étonné de l'Union européenne d'avoir ces données et de financer des chanteurs et de ne pas financer l'école guinéenne. Depuis que l'Union européenne finance la Guinée, il n'y a aucun sou de l'Union européenne dans le secteur de l'éducation.
L'OIM en Guinée, contrôle des frontières et des âmes, un reportage de Raphaël Kraft avec Emily Chili à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Alors, juste avant d'interroger notre invitée, la sociologue Pascaline Chapard, spécialiste d'immigration, une précision, Raphaël Kraft. Quand l'anthropologue Bano Barry affirme qu'il n'y a aucun sou de l'Union européenne dans le secteur de l'éducation en Guinée, est-ce que c'est exact?
Alors, nous dirons que la part de l'éducation dans l'aide publique au développement en Afrique, ces 15 dernières années, a considérablement baissé.
D'accord, je me tourne maintenant vers vous, Pascaline Chapard, pour en savoir un petit peu plus sur l'OIM dont on a bien entendu parler dans ce reportage, donc l'Organisation internationale pour l'immigration. On va peut-être commencer par un rapide mot sur le contexte et l'état d'esprit dans lequel cette organisation a été créée.
Cette organisation a été créée en 1951 sous l'impulsion des États-Unis et par d'autres pays pour la plupart du continent européen. Il s'agissait alors d'une petite agence de logistique qui était chargée du transport notamment des personnes, des populations réfugiées des pays de l'Europe de l'Ouest. Donc cela concernait essentiellement une problématique européenne. Et avec l'évolution du contexte géopolitique, elle s'est progressivement rénovée, a diversifié ses activités et est devenue en 1989 l'Organisation internationale pour les migrations. Elle a donc été pérennisée puisqu'à l'origine elle n'était censée être que temporaire. Et par ailleurs, ses activités ont été diversifiées. Elle a eu vocation à fournir des services de migration aux États, mais aussi a été dotée d'un rôle stratégique visant au renforcement de la coopération et de la coordination entre les États et les organisations. Pour le dire plus rapidement, elle est chargée d'organiser une convergence des politiques et une internationalisation des chaînes migratoires.
Et avec quel financement ?
Avec les financements des États, puisque son modèle de financement est étroitement relié au pays qui lui demande ses services migratoires.
Donc son rôle aujourd'hui, il y a finalement pas mal de choses, hein, parce qu'il y a le contrôle des frontières, la gestion des flux. Alors elle contribue à équiper par exemple les postes frontières ?
Tout à fait. Elle est financée par divers États ou par l'Union européenne directement. Et du coup, oui, elle construit et elle équipe des postes frontières, justement en jouant sur plusieurs tableaux, en essayant entre guillemets de motiver les États qui peuvent être réticents à accepter de tels projets. On peut penser par exemple au Mali, à jouer justement sur le sentiment soit nationaliste, soit sur la souveraineté, l'idée de contrôler son territoire, sa population, mais aussi sur la dimension technologique en fournissant, on va dire, la technologie de télécommunication ou de registre biométrique dernier cri.
Et pourquoi est-ce que le Mali est réticent, par exemple ?
Parce que le Mali a une tradition, comme la Guinée, de migration et que l'idée que des États européens, notamment la France à travers l'Union européenne, qui est donc l'ancien colonisateur, viennent s'immiscer dans ce type de politique souverainiste, normalement, pose question.
Alors justement, dans quelle mesure est-ce que l'OIM s'immisce dans la législation des pays d'Afrique ?
Alors l'OIM a un rôle, comme j'ai dit, stratégique de contribuer à favoriser, à mettre la question migratoire dans le débat public. Et elle est donc secrétaire d'un certain nombre de processus de consultation régionale qui donc facilitent les discussions. Et elle peut participer dans ce cadre à l'élaboration de politiques migratoires nationales ou à des transferts de politiques. Dans le cas nigérien, par exemple, depuis 2016, elle participe au cadre de concertation pour l'élaboration d'une politique migratoire en partenariat avec l'Union européenne et bien entendu les autorités nationales.
Ce qui veut dire que donc les pays d'Afrique ne sont plus vraiment souverains en la matière. Il y a vraiment une pression très importante.
Exactement. Puis vu les financements pour des États qui sont, on va dire, étroitement dépendants de l'aide internationale, oui, c'est flagrant.
Alors on a un positionnement, en apparence en tout cas, des messages plutôt humanitaires. L'idée c'est de protéger les migrants, c'est d'assurer des migrations sûres. Quelles sont les relations entre l'OIM et l'UHCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés ? C'est pas les missions ne sont pas les mêmes. Mais...
Exactement, ils ont chacun leur propre mandat, fondé sur une division des catégories entre d'un côté les migrants et de l'autre côté les réfugiés. Sachant que si tous deux utilisent le registre et la rhétorique de la protection, l'UHCR en ce domaine a une assise juridique que n'a pas l'OIM. Puisque l'UHCR donc est chargé de garantir la protection internationale des personnes en demande d'asile ou réfugiés, alors que l'OIM va utiliser la protection et estime que dans les faits, par ses activités, protège les migrants. Ce qui se passe également, c'est que cette division des mandats, avec l'évolution des politiques migratoires de plus en plus restrictives, joue aussi sur l'émergence de nouvelles catégories, avec par exemple ce que le HR nomme les personnes qui n'ont pas besoin de protection internationale. Donc ce sont des domaines où en fait elles se retrouvent, leurs actions peuvent être concurrentes mais également complémentaires, puisque ce sont également ce qu'on appelle les migrations mixtes, qui mélangeraient donc des personnes, on va dire les migrants économiques, pour reprendre les grandes catégories, et les demandeurs d'asile. Et donc ce sont des domaines dans lesquels elles sont amenées à travailler ensemble, où d'un côté on va dire que l'OIM peut référencer au HR des personnes qui sont potentiellement demandeurs d'asile, et de l'autre côté celles qui ne vont pas répondre à cette catégorie, l'OIM va leur proposer une aide au retour volontaire.
Et l'OIM est entrée dans le système onusien assez récemment, ça a quel impact exactement ?
Alors ce que ça change concrètement, sachant que c'est une organisation, l'OIM, qui est quand même largement méconnue du grand public, pour beaucoup de personnes, l'OIM faisait déjà partie de l'ONU. Ce que ça change concrètement, c'est que si avant elle pouvait être écartée d'un certain nombre de tables de discussion, de négociation, aujourd'hui sa place est garantie. Ce que ça peut changer aussi, c'est que certaines de ces actions sont polémiques, sont contestées, et que même au sein des salariés de l'OIM, il y a certaines actions qui sont plus ou moins jugées problématiques, et que donc son inscription dans le système onusien pour une partie de ses salariés pourrait sans doute garantir un contrôle plus serré, entre guillemets, plus étroit, de ses activités, notamment d'inscrire plus ses activités dans le cadre du droit international, tandis que d'autres défendent justement sa flexibilité et le fait que les activités qu'elle met en place sont celles qui lui sont confiées par les États.
Alors ces actions problématiques, entre guillemets, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui est conflictuel ?
Le retour volontaire, par exemple. Enfin, on a bien vu que...
Dit volontaire,
quand on interroge les personnes, les soi-disant retournés volontaires, ils ne sont pas nécessairement d'accord avec cette définition. Et que globalement, à l'échelle internationale, ces programmes sont le cœur de métier de l'OIM, qui sont mis en place en Europe largement, même au sein des centres de rétention. Donc pareil, ça pose toujours une question, est-ce que quelqu'un est vraiment volontaire quand on ne lui donne pas d'autre choix?
Alors d'ailleurs, je me demandais dans ce retour dit volontaire, donc de personnes qui étaient par exemple en Libye, est-ce qu'on ramène dans leur pays d'origine des personnes qui auraient pu obtenir l'asile si elles étaient arrivées au bout de leur périple?
Alors c'est toute la question de la division du travail et du discours qu'il y a eu à propos de la Libye depuis la Réunion et l'effet du reportage CNN. En novembre 2017, si je ne me trompe pas.
Sur les marchés aux esclaves.
Exactement. Où en fait, le discours était de « il faut libérer ces personnes du joug de leurs tortionnaires ». Et on voit très vite, si on se penche un peu sur les financements qui ont été octroyés, que l'essentiel des financements ont été alloués à l'OIM et non pas au HCR. Et que donc le HCR a, entre guillemets, un peu surfé sur cette vague libératrice et promeut tout un discours pour dire qu'il libère ces personnes-là des prisons. Alors après, ça n'empêche pas que certaines sont confiées, entre guillemets, au HCR et peuvent être réinstallées dans d'autres pays européens, par exemple.
Raphaël Kraft.
Oui, une question. Est-ce que l'OIM renvoie des personnes dans des pays où, qui ne sont pas sûrs pour eux, je pense au Soudan, à l'Érythrée, ou au Honduras ou au Salvador pour ceux qui sont des réfugiés au Mexique?
Alors oui, l'OIM renvoie au Honduras et au Salvador, et dans le cas plus particulièrement de l'Afrique, dans le cadre de mes recherches, j'étais amenée à rencontrer une personne originaire de Centrafrique, à un moment donné où la situation en Centrafrique était quand même relativement tendue, et à partir du moment où les retours se fondent sur la nationalité des personnes, l'OIM ne peut pas renvoyer une personne dans un autre État, dès lors qu'elle n'a pas de titre de séjour qui lui permette d'être accueillie dans son État. Donc oui, l'OIM renvoie dans ces pays-là.
Mais alors, une fois qu'elle renvoie les migrants dans leur pays d'origine, à supposer qu'ils soient dans une situation à peu près sûre, qu'est-ce qui est fait pour leur réintégration? Alors là, je me tourne déjà vers vous, Raphaël Kraft. En Guinée, est-ce que vous avez vu concrètement, on a entendu qu'il y en a il y a des personnes qui attendent encore qu'on revienne vers elles, on leur a dit on va vous aider, il se passe pas forcément grand-chose derrière, qu'est-ce que vous en savez, vous?
Alors les quelques personnes que j'ai rencontrées, effectivement, n'ont pas eu leur... disons que l'OIM ne les a pas aidés. On va parler du papier. Sur le papier, en effet, lorsque ces migrants dits retournés volontaires arrivent, ils sont d'abord insérés dans des programmes d'intérêt général, comme l'assainissement des villes. Ensuite, l'OIM leur donne des appuis à la création d'entreprises, à l'agriculture. Il y a également des formations professionnelles qui leur sont proposées, sachant que ça touche des métiers à haute intensité en main-d'œuvre, HIMO, qui ne sont pas forcément en corrélation avec le profil de ces personnes, dont on a vu qu'ils étaient pour beaucoup à bac plus 2, plus 3, plus 4 ou plus 5. Depuis novembre 2018, depuis novembre dernier, un programme Intégra a été lancé par l'Union européenne qui va être mis en œuvre partiellement par l'OIM, mais surtout principalement par la coopération belge et la coopération allemande, et ainsi que le Centre du commerce international à Genève, qui dépend de l'ONU également, pour tenter des créations d'emplois, pour tenter d'inciter ces Guinéens à rester au pays, un fonds à hauteur de 65 millions d'euros.
Alors ce décalage entre les promesses faites par l'OIM et la réalité de ce qui est proposé aux migrants, à ceux qui sont de retour dans leur pays, vous avez aussi observé ça, Pascaline Chappard?
Tout à fait, et ce qui montre bien le décalage en fait entre les intérêts des financeurs de ces programmes et la réalité concrète de leur mise en œuvre. Puisque justement l'accent est mis plus sur la quantité de retours, j'ai envie de dire, le nombre d'effectifs, que réellement traduire en pratique les promesses d'une aide à l'arrivée. Il est assez fréquent, enfin moi j'ai pu me rendre compte dans le cadre de mes recherches, que les promesses faites au moment du départ n'étaient jamais réalisées, mais justement parce que les fonds censés être attribués à la réinsertion avaient été utilisés pour des vols achetés, enfin en gros payer des billets d'avion pour faire en sorte qu'il y ait des retours. Ce décalage s'explique également par toute la dimension administrative assez lourde qui participe à la mise en œuvre à la réalisation des activités. Alors il y a un gros accent qui est mis généralement sur l'entrepreneuriat. On décide de faire de ces expulsés de nouveaux entrepreneurs. sachant que l'idée est quand même de faire en sorte que leur activité s'inscrive dans une activité formelle. Donc par exemple, le coût pour une licence pour un taximan, parfois, est supérieur à la somme allouée à la réinsertion. Donc tout de suite, ça limite. Par exemple, également pour acheter une voiture, c'est pas toujours possible. Et puis après, il y a la grosse question du souhait des personnes aussi, parce que toutes ne veulent pas être entrepreneurs, beaucoup veulent faire des études, ou sinon, après, également, il y a un décalage entre ce qu'a dit Raphaël sur les compétences des personnes et la fonction qu'on leur attribue ou on leur achète des, par exemple, du bétail alors qu'elles n'ont jamais été impliquées dans des activités d'élevage ou ne disposent même pas de terre pour avoir ces bêtes.
Alors on entendait dans le reportage un Guinéen qui disait bah, « Moi, si finalement je ne m'y retrouve pas, je repartirai ». Quelle est la possibilité de migration légale aujourd'hui ?
Alors, la possibilité de migration légale, effectivement, il y a beaucoup de discours sur la question migratoire aujourd'hui. On l'a vu plus récemment avec le pacte. Mais il semble pourtant que l'accent soit quand même davantage mis sur l'aspect sécuritaire que réellement des opportunités offertes en termes de migration ou d'obtention de visa. Si on se réfère toujours à ce fameux pacte qui a été adopté récemment, en décembre 2018...
À Marrakech,
qui a suscité un certain nombre de polémiques, alors que c'est en soi un texte non contraignant et qui réaffirme très clairement la souveraineté des États en la matière. L'objectif de faciliter la migration légale n'arrive qu'en cinquième position, et la formulation choisie est très, très, très restrictive.
Merci beaucoup Pascaline Chappard. L'OIM en Guinée, contrôle des frontières et des âmes. Grand reportage signé Raphaël Kraft avec Emily Chili à la réalisation et Élise Le à la technique. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission sur franceculture.fr.